Hey, avant de démarrer ce nouvel épisode, il faut que je vous présente ma nouvelle application Sport Science Test. Saviez-vous que pour mesurer la puissance, les équations que nous utilisons obtiennent 2% d'écart de précision avec des plateformes de force ? Saviez-vous que l'algorithme de Sport Science Test permettait simplement en filmant le mouvement de savoir quels muscles étirer ou renforcer pour l'optimiser ? Que vous pouviez tester l'endurance de dizaines de joueurs à la fois sans jamais vous tromper ? Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que sait faire Sport Science Test pour seulement 99€ par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester, car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Fred Belouze. Fred, merci.
Merci à toi, merci de me recevoir à nouveau. Par contre, tu aurais pu avoir la délicatesse de ne pas sortir les bras, parce que la dernière fois, tu m'as accueilli un peu vêtu, je me sentais moins complexé.
C'est ça, la première fois, je te mets en confiance, et puis à deuxième
voilà,
fois...
Voilà, tu montres.
Bah écoute, hein, on réglera ça dans le bois de Vincennes, tu me mettras quelques kilomètres hors dans les narines, ça va me calmer. Donc Fred, vous l'avez compris, si vous n'avez pas vu le premier épisode, et spécialiste d'athlétisme, c'est un des entraîneurs du Stade français, du groupe demi-fond et fond,
ouais, c'est ça ? Oui, groupe élite, demi-fond, fond, exactement.
Par ailleurs très sensible à la préparation physique, il travaille sur un livre sur le sujet et co-animateur du podcast Dans la tête d'un coureur.
Exactement.
Donc voilà, c'est logique finalement qu'il ait des plus petits bras que moi et qu'il court plus longtemps que moi. Voilà, tout ça se tient parfaitement. Aujourd'hui, on va parler justement de techniques de course, d'outils de course. Il y a une thématique qui emballe depuis quelques années le monde de la prépa physique en particulier. On parlait hors caméra du fait que ça emballait peut-être un peu moins le monde de l'athlétisme finalement. Mais en tout cas, entre nous, entre pimpin du matin de la course à pied de la prépa physique, eh ben on s'embrase autour du port de chaussures minimaliste versus le port de chaussures que j'appelle maximaliste, mais de plus équipé en renfort, plus équipé en amorti. Bon, ben voilà, qu'est-ce que t'en penses ?
Déjà, comme tu le disais, hein, je pense que c'est un débat en tout cas qui dans le monde de la course à pied anime plus du tout, très honnêtement. Mais je vais faire un petit retour en arrière un peu sur comment est arrivée, entre guillemets, cette histoire. De manière assez concrète, ça a explosé à la fin des années 2000. Donc 2009 exactement, il y a la sortie de l'ouvrage qui s'appelle « Born to Run » de Christopher McDougall, qui est l'histoire, hein, je la fais vite, sur,
j'étais en Angleterre à l'époque.
Tribu mexicaine, les Tarahumaras, qui sont des coureurs très endurants et qui courent en sandales. Donc partons de là, finalement, pas besoin des chaussures avec tout leur amorti pour bien courir et courir longtemps. En fait, il faut savoir juste courir en utilisant la force d'absorption et de restitution, merci.
N'hésite pas, si tu as besoin d'un conseil, voilà, en athlée, tu...
Exactement, des muscles et des tendons, plutôt que d'utiliser le système osseux comme système d'absorption, simplement. C'est un peu ça l'idée de base.
Le fondement.
Voilà. Derrière un gros emballement qu'on a vécu dans le monde de la course à pied, mais qui finalement s'est assez vite éteint. Enfin, il y a eu toute une période où... Voilà, c'était un peu la concurrence aux chaussures les plus plates possibles. On avait cette fameuse histoire de drop. Alors le drop, pour ceux qui ne sont pas des connaisseurs de cette histoire-là, c'est la différence de hauteur entre votre gros orteil et le talon. Et entre, donc, plus le drop est faible, finalement, plus vous êtes sur une chaussure qui est la plus plate possible. Et donc, évidemment, avec un amorti le plus réduit possible. On a eu le développement de toutes ces chaussures-là. Et depuis quelques années, un an et demi, deux ans, avec les nouveaux modèles à lame de carbone, on a fait machine arrière, parce que si on regarde les chaussures, on a l'impression vraiment que c'est des vaisseaux spatiaux qui font quatre fois le pied, et on a l'impression d'être allé 10 ans, 20 ans avant le...
Avant l'Air Max.
Voilà, avant le minimalisme en tout cas. On a fait carrément machine arrière. Alors, ces chaussures sont impressionnantes par leur taille, mais finalement, elles n'ont pas un drop si élevé, finalement. Il ne faut pas s'y tromper. Mais en tout cas, cette question, elle a été assez rapidement, tranchée dans le monde de l'athlétisme, ça c'est clair.
Bon, déjà, on n'a pas vu de record du monde tomber en minimaliste.
Exactement. Et finalement, nous, on a notre minimalisme parce qu'il y a un certain nombre de compétitions qui se passent sur piste. Et finalement, quand vous êtes sur piste, vous courez avec des chaussures à pointe. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment qu'une semelle sans amorti, avec des petites pointes de 6 mm au bout, et un point, c'est tout. Donc voilà. Donc nous, on a déjà finalement, sans vouloir être dans un mode minimaliste, on connaît ça, en tout cas ceux qui ont les cursus, qui sont un peu les cursus classiques en athlée. Je commence jeune, je fais les crosses, la piste, puis après je passe sur route.
Ils sont tous passés par,
ils connaissent
par une chaussure
ça.
Minimaliste.
Ils connaissent ça. Ouais. Alors après, les fondements même, les fondements, on va dire, biomécaniques, physiologiques du minimalisme ne sont pas à jeter en soi parce que, évidemment, l'idée, c'est l'optimisation de la foulée et effectivement, en se servant plus du système musculo-tendineux dans sa force élastique et de projection et de restitution de l'énergie, plutôt qu'avoir des forces d'amortissement qui sollicitent le système osseux et articulaire, parce que ça crée beaucoup de dégâts, et qui en plus est très consommateur d'énergie. Finalement, c'est est-ce que je dois courir en piston ou en rebond ? C'est un peu ça, finalement, si on veut un peu extrémiser les deux positions. Le juste milieu est souvent, comme dans beaucoup de choses, la voie privilégiée, parce que effectivement, si vous ne courez qu'en piston, bah, globalement, vous allez vous esquinter. Très concrètement, et vous n'aurez pas en tout cas une course efficace, donc elle sera à la fois destructrice et inefficace. Par contre, si vous êtes qu'en course de rebond, ça ce sont des courses de sprinteurs, et on ne peut pas courir en rebond sur 5000, sur 10000, sur semi-marathon et sur marathon, et en plus ça ne fait pas appel au même groupe musculaire de manière prépondérante. On sait que, par exemple, les sprinteurs utilisent énormément les ischios, à 70-80% pour certains, puisque c'est vraiment l'élément élastique et de rebond. Alors que, par exemple, un marathonien, ses ischios, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas utilisés, mais globalement, ça va être 80% quadri-mollet.
Bien sûr.
Entre guillemets, hein, je fais vraiment des jeux ratés. Pour qu'on ait bien l'idée. Mais voilà, on va gagner à avoir une foulée qui, évidemment, ne soit pas ce qu'on caricature un peu par l'attaque talon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce débat-là, il y a plusieurs choses qui se sont mêlées, en fait. Et je pense que déjà, il y a une certaine conception de courir nature. Parce que c'était ça un peu, je cours pieds nus, ça vient Abebe Bikila qui a été le premier médaillé d'or olympique africain lors des JO de Rome en 1960, gagne le marathon pieds nus. À l'époque, ça fait sensation. Il est à nouveau champion olympique 4 ans plus tard sur le marathon à Tokyo. Là, il a des chaussures par contre. Il n'était pas pieds nus parce que c'était un choix, c'était parce que, en gros, c'était une problématique économique à cette époque-là. Et du coup, bon, il y avait une forme de fantasme autour de ça. Finalement, quand on est pieds nus, on est nature. Hein, on connaît ça dans les... Je vais faire un parallèle un peu avec tout ce qui est paléonutrition.
Oui, bien sûr, c'est une forme de fantasme du retour aux sources.
Voilà, moi, je dirais fantasme de retour aux sources parce que souvent, quand on dit c'est plus naturel de courir pieds nus ou alors vraiment avec les chaussures ou c'est juste une semelle de protection pour ne pas s'abîmer les pieds, c'était peut-être naturel il y a 500 ans, 600 ans, quand on marchait pieds nus. Ouais. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle...
On n'est pas nés il y a 500 ans.
Voilà, nous, on n'est pas nés il y a 500 ans. Mmh. Et nous, et même nos parents, ont eu des chaussures ou des chaussons quasiment dès qu'ils sont nés. Donc nous, on a appris à marcher avec des chaussures, avec une certaine forme d'amorti.
Oui,
et ça modifie
et puis,
déjà
comme
les appuis.
Comme tu disais, l'exemple qui est pris, c'est l'exemple des Mexicains. Déjà, on n'est pas tous Mexicains. Donc, on ne court pas tous dans la jungle, pour commencer.
Belle barbe de Mexique, hein, quand
pourtant,
même.
Hein, voilà. On ne court pas tous dans des climats tropicaux ou dans des climats tempérés. Je veux dire, à un moment donné, quand tu vis à la montagne, tu ne marches pas pieds nus, hein, et même il y a 500 ans.
Ouais.
Voilà, à un moment donné, il faut se couvrir quand même. Donc, tout ça fait qu'il y a des styles probablement très différents d'une région à l'autre. Aujourd'hui, on est quand même plus à...
Puis on court sur bitume.
On est plus exposé à du bitume, c'est exactement ce que j'allais dire, que de caresser du gazon sur des longues prairies. Quoi, hein. Donc, à un moment donné, il faut aussi s'adapter à son environnement qui a évolué et prendre ça en compte. Donc, est-ce que finalement, avoir plusieurs paires de chaussures, une adaptée à chaque type de revêtement, voilà, on aurait pu prendre un autre vêtement, c'est le tapis de course.
Voilà.
Hein,
exactement.
L'environnement urbain aujourd'hui du coureur, c'est aussi beaucoup ça. C'est sûr que ce n'est pas du tout les mêmes impacts. Certains tapis ont carrément des amortis intégrés, ont carrément un revêtement qui absorbe en partie justement les chocs pour étouffer un peu le truc. Peut-être que là, on peut se permettre de courir un peu plus pieds nus, ou en tout cas sur des chaussons beaucoup plus fins que quand on court en forêt ou en montagne.
Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former. Parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion. Parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence. Eh bien, j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre, rapidement et à moindre coût temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussel-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences.
Exactement, et en plus, ce fantasme de retour aux sources, de retour à la nature, je pense se place, alors sans faire trop d'analyse psychologique de comptoir, mais aussi dans une démarche de société, c'est très développé aux États-Unis et dans les pays anglophones, à contre-courant du consumérisme ambiant et généralisé, puisque au final, les chaussures amortissantes ont été accusées de favoriser des types de foulées, notamment les fameuses foulées à taques de pied qui sont assez dévastatrices pour l'organisme, comme je disais, parce que ce sont les articulations qui prennent les chocs. Or, on voit bien quand même avec un certain nombre d'athlètes, notamment les athlètes de haut niveau, vous pouvez leur mettre n'importe quel type de chaussures au pied, même des chaussures avec des gros amortis, leur foulée, elle va rester médio-pied, c'est-à-dire milieu du pied, voire plante de pied. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, on ne va pas améliorer sa technique de course fondamentalement en changeant la chaussure, mais surtout en faisant le travail qu'il faut pour. Alors que ça soit tous les grands athlètes qu'on voit, comme je le disais, sont passés par la piste, donc ils ont eu cette phase-là avec énormément de travail de gamme, travail à haute intensité, et on sait que si on veut être véloce et efficace sur des hautes intensités, il va falloir avoir le moins de surface de pied en contact avec le sol et avoir une réactivité au sol la plus dynamique et rapide possible et une fréquence élevée. Et ça, ce n'est pas possible. Évidemment, si on a le pied qui arrive entier et qu'on s'écrase à chaque foulée, on ne va pas pouvoir être efficace. Donc,
évidemment,
au fur et à mesure, on travaille. Et il y a tout ce qu'on appelle les éducatifs ou les gammes lorsqu'on fait des entraînements d'athlétisme qui participent de cette qualité de pied. Parce que finalement,
c'est avant tout du travail technique.
Voilà, qu'on soit en attaque médio-pied, plante de pied, ou voire même vraiment pied à plat, ce qui va faire la différence, c'est la dynamique de pied au sol, la réaction du pied au sol. Vous avez des athlètes qui vraiment posent le pied à plat au sol, mais qui ont une telle dynamique de pied et de réaction qui vont être plus efficaces que d'autres athlètes qui vont être juste en plante de pied, tout simplement. C'est ça. C'est par ce biais-là, en fait, qu'il faut prendre l'analyse de finalement Est-ce que je dois être minimaliste, maximaliste? En fait, c'est moi, je crois beaucoup au fait que l'organisme, qui est un système éminemment complexe, mais éminemment performant, de manière très intelligente, s'adapte en fonction de sa propre réalité. Parce que tous les modèles biomécaniques qui ont leur intérêt, il faut pas tout jeter non plus, sont faits sur une biomécanique idéale. L'être humain, il est constitué comme ça, de telle manière, telle proportion. Or, dans la réalité, on voit qu'avec les différences de morphologie, de typologie, tout le monde n'est pas constitué de la même manière.
Non, clairement pas.
Et vous allez avoir des coureurs qui, quoi qu'il arrive, par exemple, vont courir en canard, vraiment, mais vont être bien plus efficaces que d'autres coureurs avec une très belle foulée, mais parce que leur corps a su s'organiser pour être le plus performant possible en fonction de ses propres contraintes, si je puis dire. Pour les plus anciens, même si moi je suis jeune par rapport à ça, mais qui connaissent un peu l'histoire de l'athlétisme, il y a le fameux Zátopek, Emil Zátopek, multiple recordman du monde, multiple champion du monde, champion olympique, du 5000 au marathon, donc 5000, 10000 marathon, voilà, qu'on appelait la locomotive, et qui avait une technique de course assez, on va dire, horrible, vraiment. Hein. Il n'était vraiment pas beau à voir courir. En plus, il avait l'air d'énormément souffrir. Et lui, il avait toujours cette réponse qui disait « Le jour où la notation, le style interviendra dans le résultat, un peu comme, on va dire, comme le patinage artistique. »
Comme un sport expression de forme, bien sûr.
Là, je ferai un effort. Tant que c'est juste le résultat pur et dur qui compte, je ne m'en soucie pas parce que c'est ça qui me permet d'aller là où je peux aller. Et je pense que voilà, c'est vraiment, il faut pas contraindre son corps à vouloir agir d'une manière si on ne l'accompagne pas. C'est-à-dire, les choses qu'on a pu voir au moment où le minimalisme s'est un peu développé dans le monde de la course à pied, c'est des gens qui, du jour au lendemain, sont passés du tout au rien. On peut avoir cette démarche de dire finalement, je vais essayer d'améliorer. Mais en fait, ce n'est pas juste le fait de changer de chaussure qui va vous faire changer votre foulée.
C'est avant tout un problème technique, problème d'état d'esprit.
L'état d'esprit, le travail technique, comme je disais. Et là, je vais aussi rejoindre quelque chose qu'on s'est dit lorsqu'on s'est vu la première fois. Tout le travail musculaire, de musculation qu'on fait derrière pour soutenir cette nouvelle foulée. Parce que, comme je le disais, on passe d'une foulée où on va faire reposer les impacts au sol du système osseux au système tendineux musculaire. Mais si on n'a pas le système musculo-tendineux qui peut encaisser ce type de foulée, on n'y arrivera pas. Mm-hmm. Je veux dire, même des athlètes très performants, on va les prendre, on va dire, tiens, le type de foulée que tu es capable de tenir, par exemple, sur un 800, un 1500, une foulée très aérienne, juste en plante de pied, où vraiment on a l'impression que tu rebondis sur la piste ou sur le sol, tu me le tiens pendant 5 km, il y en a qui n'y arriveront pas.
Bien sûr. Une chaussure minimaliste, c'est clair, ça se mérite.
Et voilà, c'est un ensemble. Et donc, si tu ne prépares pas l'organisme à ça, il ne suffit pas juste de le mettre. La seule chose que tu risques de faire, c'est de te bousiller tout simplement. Parce que c'est comme en tout. Hein. Il ne faut pas croire que c'est l'outil qui t'amène à la performance ou en tout cas à l'optimisation de tes capacités, c'est toi comment tu vas guider ton travail.
Et ça, je pense que c'est...
Et l'amener là où tu veux aller. Et aussi avoir cette réflexion, est-ce que finalement, par rapport à ce que je souhaite, au capital que j'ai optimisé, est-ce que cette manière de courir va finalement me favoriser ? Très, très concrètement, ça, c'est une question centrale, finalement, qu'on doit à un moment poser. C'est l'organisation que je prends, que mon organisme prend pour courir. Est-ce que ce n'est pas celle qui m'amène là où je vais être le plus efficace, tout simplement. Après, il y a des choses à corriger, comme en tout. Mais c'est vraiment la question centrale. C'est de se dire, ouais, est-ce que je fais le changement pour le changement? Est-ce que je suis guidé par une idéologie ou est-ce que je suis guidé par une optimisation? Si je suis guidé par l'idéologie, je vais y aller brut, hein, je vais même courir pieds nus dans la rue, quitte à me couper avec les bouts de verre qui peuvent traîner ou autre. Ou si je suis guidé par, euh, par une volonté d'optimisation de ma performance, de mes résultats, de mon bien-être physique et psychologique, bah, je vais voir finalement comment je dois accompagner ce travail-là.
Intéressant. Bah, en étant guidé par l'optimisation, on peut se poser une question simple déjà. On peut se dire, tiens, quand bien même je serai un grand coureur, je cours tous les jours, je m'entraîne 1h30, 2h par jour, vrai volume, voilà, ok.
Ça commence à faire.
Ça commence à envoyer. Bah, au final, je dirais, il y a quand même 12 heures dans une journée. On passe quand même 8 heures de la journée en chaussures de ville, en basket, compensation de toutes parts parce qu'elles sont cool, en tout ça. Donc, est-ce que vraiment la course à pied est l'angle d'attaque le plus pertinent pour amorcer une révolution du pied et un retour à la nature? Est-ce que finalement, il ne vaudrait pas mieux être au bureau en chaussettes ou pieds nus, être à la maison systématiquement en chaussettes ou pieds nus, là où, comme tu le disais, il n'y a pas de bout de verre par terre, on n'a pas de contraintes mécaniques. En revanche, on éveille la voûte plantaire, on éveille la capacité de préhension des orteils, on éveille la pronation supination de cheville, on éveille les réflexes ipsilatéraux inverses, on redonne vie à notre pied en toute sécurité. Et par contre, 7, 8, 10 heures par jour. Pas juste sur une sortie où justement c'était peut-être l'occasion de protéger un petit peu son.
En fait, ouais, comme tu le dis très concrètement, c'est dans l'essentiel du temps que je peux consacrer à cette évolution, à ce changement, si vraiment je veux le mener, qu'il va falloir que j'investisse cette nouvelle pratique. Parce qu'effectivement,
un temps sécuritaire, un temps confortable.
Ouais, déjà un temps sécuritaire, un temps confortable, mais en plus un temps largement accru. Puisque là, tu prenais l'exemple même du coureur qui court jusqu'à même 2 heures par jour. Là, on est quand même sur des coureurs qui s'entraînent énormément. Et je pense que la très grande majorité n'ont même pas ces volumes-là. Par contre, même si tu t'entraînes 2 heures par jour avec des chaussures qui ont l'amorti qu'il faut et qui sont peut-être loin d'être minimalistes, mais que le reste du temps, tu es pieds nus ou quasiment en chaussures qui te permettent d'avoir une préhension au sol permettant d'activer l'ensemble de la voûte plantaire, ça sera bien plus bénéfique. Et si derrière tu rajoutes des petits exercices, moi j'aime bien faire ça à mes athlètes par exemple, ça renforce aussi la cheville, mais on travaille beaucoup le pied, de se brosser les dents en faisant un cloche-pied, tout simplement, le truc idiot, mais c'est ça. Et le petit exercice,
les opportunités sont partout.
Le petit exercice de griffer d'un linge au sol ou d'une serviette de préhension des doigts de pied, et alors, essayez, ceux qui écoutent, essayez de faire ça ce soir ou demain, après que vous ayez écouté le podcast, vous allez voir que finalement, vous n'avez peut-être pas autant de force que ça. Et qu'en faisant ces petits exercices, en marchant régulièrement pieds nus chez soi, eh ben vous allez bien plus vous renforcer les pieds qu'en vous disant je cours en minimalisme et le reste du temps, je suis avec mes chaussures à talons, je suis avec mes Air Max parce que j'aime bien le style et vous avez raison de vous faire plaisir aussi. Voilà. Et sachez vraiment aussi pourquoi vous le faites. Moi, je reviens toujours à finalement, on peut avoir cette idée-là qui peut répondre à une forme de mode. Mais concrètement, l'idée pour moi de toute pratique sportive, c'est de chercher l'optimisation de ses capacités. Et est-ce que vraiment emprunter ces voies-là, de cette manière-là, va optimiser votre pratique, très concrètement?
C'est une question qu'il faut se poser. Écoute, merci d'être venu partager avec nous tout ça, Fred. C'était super intéressant, c'était passionnant, c'était un grand plaisir.
Merci à toi, surtout que c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder, parce qu'il y a tellement un peu de controversés ou de fantasmes qui circulent autour de ça.
En tout cas, il y a de la controverse, voilà. C'est bien d'alimenter un peu avec un point de vue de spécialiste. Point de vue que vous pouvez écouter dans la tête d'un coureur, son podcast que tu co-animes depuis un petit moment maintenant.
Oui, tu co-animes depuis 3 ans maintenant avec Guillaume.
3 ans, donc commence à avoir un petit peu de bouteille. Il y a quelques épisodes à rattraper. En tout cas, vous nous écoutez peut-être en audio sur toutes les plateformes de streaming ou nous regardez en vidéo sur YouTube. Peut-être que vous nous avez aussi regardé en version augmentée sur mon site internet. En tous les cas, d'autres épisodes vous attendent inédits sur le e-campus de transfert. Je vous remercie de nous avoir écoutés et de votre fidélité. À très bientôt. Salut Fred.
Salut Aurélien et la prochaine fois tu te couvres s'il te plaît.
C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.